Chapitre 12. Je vais mourir. Ma gorge est un immense brasier, je suis en train de me consumer de l'intérieur. Je pense que les petits bons hommes de Il était une fois la vie se sont donné rendez-vous dans mon larynx pour y faire un feu de camp, pendant que d'autres jouent aux fléchettes dans mes bronches. Je suis là depuis 3 jours, et j'ai déjà frôlé la mort 3 fois. Il est évident que l'univers m'envoie des signes. Je réglerai cela plus tard. L'urgence est d'éteindre l'incendie. Il est 21h, il fait nuit, la pharmacie est fermée et je ne suis pas persuadée que les fraises Tagada soulagent les maux de gorge. Comme à chaque fois, j'ai l'impression de n'avoir jamais autant souffert. Dans le but de me rassurer, j'ai fait ce que je conseille à tout le monde de ne jamais faire. J'ai ouvert mon ordinateur et effectué quelques recherches sur le net. Mal à la gorge beaucoup, symptômes cancer de la gorge, peut-on mourir du mal de gorge? Comment se venger de personnes qui nous ont forcés à nous baigner dans une eau glacée en plein hiver? Je crois que je suis hypochondriaque. Internet me prédisant une mort proche et douloureuse, je décide courageusement de ne pas capituler sans me battre. Mes voisins de palier ont peut-être des pastilles pour la gorge, du miel, un extincteur ou tout autre accessoire capable de faire cesser cette douleur. Je tente d'abord la porte d'en face. Je crois me souvenir qu'il s'agit du studio de Greg. Au bout de 3 coups tapés à la porte, j'abandonne. Il est absent. La 3e porte est celle de Marine. Ce sera l'occasion de faire sa connaissance. Elle ouvre avant même que mon poing n'ait eu le temps d'atteindre le bois. Elle porte une robe de chambre et ses cheveux sont enroulés dans une serviette. « Salut Julia, c'est cool de te voir enfin !» J'avais hâte d'avoir une voisine pour papoter et échanger des potins. « Viens, entre !» C'est gentil, mais je suis juste venue voir si tu avais quelque chose pour soulager le mal de gorge, du sirop, des pastilles. Ah oui, j'ai de quoi te soigner. Entre, je te dis, je vais te chercher ça. Le studio de Marine est exactement le même que le mien, mais est disposé dans l'autre sens. Au niveau de la décoration, en revanche, elle a fait disparaître toute ressemblance. Le canapé et le lit sont recouverts de tissus bariolés, les murs sont tapissés de photos de gens qui sourient, qui font des grimaces, qui s'embrassent, et d'elle qui fixe l'objectif en faisant des duck face. Des magazines People encombrent la table et une odeur âcre flotte dans l'air. « Assieds-toi !» me lance-t-elle depuis la kitchenette. « J'en ai pas pour longtemps. Alors, tu te plais ici ?» Je ne sais pas encore. J'avoue que j'imaginais pire. « Tu m'étonnes. Qu'est-ce que t'es venue faire dans une maison de retraite ? Paraît que tu bossais dans une clinique de ravalement de façade avant. C'est autre chose quand même. » Je ris. Cela dit, moi je me plais bien ici, poursuit-elle en criant presque pour couvrir le bruit de la vaisselle. J'avais 18 ans quand je suis arrivée. Je pensais pas rester longtemps. Et ça fait 5 ans que je bosse là. Ils sont sympas les papiers, mamie des Tamaris. Les collègues aussi. Ils ont de l'humour en tout cas. Tu dois savoir qu'ils m'ont bizuté. Oh ben, c'est la tradition. Moi, je suis arrivée au mois d'août. Ça aurait été trop facile de me faire le même coup. Alors ils se sont adaptés. Ils ont organisé un atelier pâtisserie et j'ai été tirée au sort pour goûter leur gâteau. Ils ont tous joué la déception. J'ai vraiment cru que j'avais de la chance. Je te dis pas comment je crânais en portant la cuillère à ma bouche. Je n'ai rien pu avaler pendant 2 jours. Ils avaient fourré leur cake de harissa. « Tiens, ça devrait te faire du bien, » dit-elle en me tendant un mug fumant. « C'est quoi ?»« Un grog. J'ai pas de rhum, alors j'ai mis de la tequila. À mon avis, c'est pareil. » Je m'en suis fait un aussi, pour t'accompagner. Je serre la tasse entre mes mains. Ça sent bon. Je suis moyennement persuadée de l'efficacité de la tequila sur un mal de gorge, mais le miel et le citron apaiseront un peu la douleur. 4 grogs et 2 heures plus tard, je connais toute la vie de Marine. L'été de ses 17 ans, ses parents l'ont obligée à les suivre en vacances à Biarritz alors qu'elle voulait rester avec ses copines à Strasbourg. Elle se désolait de sa situation chaque après-midi sur la plage, plongée dans des magazines. C'est le 5e jour qu'elle a levé le nez et constaté que l'un des maîtres nageurs possédait toutes les qualités nécessaires pour agrémenter son séjour. T'aurais vu ses abdos ! Heureusement que mon maillot de bain était déjà mouillé. Dès lors, elle n'a eu de cesse que de se faire remarquer. Elle se baignait exclusivement devant le mirador sur lequel il était perché, entrait dans l'eau comme une ballerine sur scène et cessait de respirer dès qu'il la regardait. À plusieurs reprises, elle a nagé loin, espérant entendre un coup de sifflet qui la rappellerait à l'ordre. Mais ses capacités musculaires l'ont toujours devancée. Finalement, c'est une piqûre de vive qui l'a poussée dans ses bras. Littéralement. Elle était en train d'expérimenter une nouvelle pose cambrée, juste devant lui, lorsque le poisson, enfoui dans le sable, s'en est pris à son pied. Elle a hurlé, s'est tordue de douleur, et c'est là, alors que son mascara avait coulé et son nez aussi, qu'il l'a approchée pour la première fois. Il a souri, s'est penché à son oreille et lui a confié qu'il ne pouvait résister à de tels talents de comédienne. « Il ne me croyait pas, ce con! J'étais en train de crever et il pensait que je faisais semblant pour le draguer !» Un an plus tard, Marine quittait Strasbourg pour vivre dans le studio de Guillaume et commençait à travailler au Tamaris. 2 ans plus tard, il prenait un 3 pièces et un chat. 4 ans plus tard, il se fiançait. 5 ans plus tard, à 3 semaines du mariage, il tombait amoureux d'une touriste allemande qui venait de se faire attaquer par une méduse. « Ce mec est un fétichiste du venin !» fulmine-t-elle. « Il mérite de tomber sur une vipère !»« T'as raison, » dit Jean hochant la tête solennellement. « Il mérite de se faire bouffer par une veuve noire. » Elle éclate de rire, puis s'interrompt brutalement et me fixe avec la gravité propre aux gens qui ont beaucoup trop bu. « Et toi ?» me demande-t-elle. « Il t'a fait quoi ?»«
Qui ?»«
Il y a forcément un mec là-dessous. On ne débarque pas avec ses valises et une voiture pleine de cartons sans qu'un mec soit passé par là. » J'ignore si c'est à cause des grogs, du naturel de Marine, de l'odeur âcre qui me monte à la tête, de la fièvre, mais avant même de me rendre compte de ce que je suis en train de faire, je me mets à tout lui raconter. Chapitre 13. J'ai rencontré Marc au rayon friandise de Monoprix. J'avais 25 ans, j'étais à Paris avec Maminou, ma grand-mère, qui devait y subir une opération de la rétine. Je jouais les gardes-malades, elle jouait les guides touristiques. C'était la première fois que je voyais la capitale. Elle m'a offert tous les clichés. La tour Eiffel, le bateau mouche, Montmartre, les Champs-Élysées. On avait loué un studio à Nation, avec un grand lit dans lequel on se glissait le soir. Moi qui lui faisais la lecture, elle qui commentait. On n'aimait rien tant que boulotter des bonbons pendant ces moments doux. C'est justement ce que j'étais venue chercher à Monoprix ce jour-là. Je scrutais le rayon en quête d'ourson en chocolat quand un grand blond en blouson en cuir s'est posté devant moi. J'ai attendu quelques secondes, persuadée qu'il allait comprendre qu'il me gênait, mais non. « Ça va, je ne vous dérange pas trop ?» lui ai-je demandé. « Non, ça peut aller, mais faudrait pas parler plus fort », a-t-il répondu sur le même ton. « Vous ne voyez pas que je suis en train de regarder le rayon ?»«
Si, justement. »
Respiration profonde. « Vous avez un gros souci », ai-je dit. « J'avoue, mon souci, c'est que je vous suis depuis un quart d'heure, que j'ai très envie de vous aborder, mais que je ne sais pas comment faire. » « Ah bah bravo !» ai-je ricané. « Vous avez réussi. On se parle. Je suis même à 2 doigts de vous caresser la mâchoire avec mon poing. Vous devez être content. » Il a ri. J'ai haussé les épaules. Il m'a tendu la main et s'est présenté. J'ai grogné. Il a dégainé son regard auquel personne ne résiste et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à minauder. À la fin de mes études, je l'ai rejoint à Paris. On avait tellement attendu cet instant que pendant plusieurs mois, chaque minute que l'on ne passait pas ensemble était une minute perdue. On prenait notre douche ensemble, on mangeait dans la même assiette, on portait les mêmes t-shirts, on lisait les mêmes livres, on tirait sur les mêmes cigarettes, on avait la même envie de faire l'amour tout le temps. Comme si on voulait rattraper toutes ces années durant lesquelles on ne se connaissait pas. Les seuls endroits où l'on allait sans l'autre, c'était le travail et les WC. Au bout de quelques mois, il arrivait que ces derniers restent la porte ouverte quand l'un de nous s'y trouvait. Hormis cela, la fusion avait cédé la place à une relation plus équilibrée. J'étais heureuse. Quand j'entendais mes copines parler de leur relation ou de leur quête de l'homme idéal, je roucoulais intérieurement. Je l'avais trouvé, mon homme idéal à moi. Il avait bien quelques défauts. Il mangeait beaucoup d'oignons et les digérait mal. Il se rasait le torse, il aimait les émissions de faits divers sordides. Il pouvait passer une journée sans ouvrir la bouche si je n'engageais pas la conversation. Et il disait « arrêt au port ». Mais aucun ne rivalisait avec ses qualités. J'étais mieux quand il était à mes côtés et il ressentait la même chose. On n'avait aucun doute. On était dans la bonne partie des statistiques et on finirait nos jours ensemble. La première alerte a eu lieu il y a 2 ans. J'ai contracté une grippe qui m'a transformée en édredon pendant 1 semaine. Je ne me levais du lit que pour aller aux toilettes. Chaque parcelle de mon corps me faisait souffrir, je respirais comme un sanglier asthmatique et j'en avais aussi la conversation. Je n'ai presque pas vu Marc de la semaine. Travail, réunion, visite chez ses parents, rendez-vous chez le dentiste, il semblait saisir le moindre prétexte pour fuir l'appartement. Quand il y était, c'était la chambre qu'il esquivait. Son rythme est redevenu normal en même temps que ma température. J'ai songé à la possibilité qu'il fasse partie de ces personnes présentes uniquement lorsque tout va bien et suffisamment lâches pour déguerpir quand on a besoin d'elles. Mais le retour de ces petites attentions a vite effacé mes craintes. Le soir où mon père est mort, Marc est resté à mes côtés jusqu'à minuit, heure à laquelle il a décrété que j'avais assez pleuré et qu'il était temps d'aller se coucher. « Je me lève tôt demain, j'ai ma réunion avec les Italiens. Tu te souviens ?» Il a eu beaucoup de réunions les jours qui ont suivi. Tellement qu'il ne m'a pas accompagnée à Biarritz, qu'il n'a pas assisté aux obsèques et qu'il coupait court à nos conversations téléphoniques dès que mon chagrin débordait des plages horaires qu'il y avait consacrées dans son planning. Quand je suis revenue à Paris, 10 jours plus tard, je lui ai fait gagner du temps en rassemblant mes affaires pendant son absence. J'ai laissé sur la table du salon un mot qui expliquait les raisons de mon départ le plus clairement possible. Ainsi, on n'aurait pas à en discuter. C'était assez court. Ça tenait en une dizaine de lignes, et il se peut que quelques mots grossiers aient été insérés, de même qu'une allusion à sa petitesse et pas uniquement celle de son esprit. « Il a réagi comment ?» me demande Marine. « Il n'a pas réagi. D'un côté, tant mieux, parce que j'aurais été capable de craquer, mais ça a été dur. « Tu m'étonnes, John. Un mec qui ne te soutient pas quand tu perds quelqu'un, c'est un connard. T'as bien fait. Typiquement le genre de mec qui se barrera avec l'infirmière si t'as un cancer. » Voilà, c'est ça. On ne peut pas prendre que les bons moments, ce n'est pas possible. Dis, ça m'ennuie de te demander ça, mais c'est quoi cette odeur ? Marine renifle bruyamment. Quelle odeur ? Je sens rien. Je sais pas, c'est âcre, ça pique un peu les yeux. On dirait une odeur d'ammoniaque, tu sais. Oh putain ! Elle se lève d'un bond, titube jusqu'à la salle de bain en répétant « Putain, putain, putain !» Puis j'entends l'eau couler. Au bout de quelques minutes, des plaintes s'élèvent derrière la porte. « Je vais sortir de la salle de bain. Jure-moi que tu vas pas rigoler !» J'ai déjà deviné avant qu'elle ne revienne et il y a de fortes chances pour que je sois incapable de tenir ma parole, mais je jure, en croisant les doigts. La porte s'ouvre lentement et un pied se dévoile, puis un bras, puis sa tête. Je lutte pour rester stoïque, résolue à tenir ma promesse. Mais dès qu'elle est suffisamment proche de moi pour que je constate le massacre, toute résistance se fait la malle et je ris à m'en faire mal aux abdominaux. « Je voulais juste des mèches blondes !» Autour de sa mine déconfite, les cheveux encore mouillés de Marine retombent en légères ondulations, parsemés çà et là de magnifiques reflets verdâtres.